Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de vous retrouver sur Radio Kardec. Les mois de juillet et août sont en général synonymes de vacances et de fermeture des centres spirites francophones. Radio Kardec ne peut échapper à cette tradition estivale. Repos bien mérité que nous mettrons à profit pour préparer la rentrée de septembre. En première partie de cette émission de transition, Monique Romans, notre lectrice du jour, continuera avec vous la lecture du livre de la Genèse. En seconde partie, nous aurons le grand plaisir de répondre à une nouvelle série de questions que vous avez bien voulu nous poser par courriel ou via notre répondeur téléphonique. Nous terminerons par divers communiqués de nos partenaires. À toutes et à tous, nous vous souhaitons une très bonne écoute. Sans plus attendre, nous cédons la parole à notre sœur Monique pour la suite du livre de la Genèse. Aujourd'hui, elle vous parlera du chapitre 2, traitant de Dieu, l'existence de Dieu, de la nature divine, des points 1 à 14.
La Genèse selon le spiritisme, chapitre 2, Dieu, existence de Dieu, point 1. Dieu étant la cause première de toute chose, le point de départ de tout, le pivot sur lequel repose l'édifice de la création, c'est le point qu'il importe de considérer avant tout. Point 2. Il est, de principe élémentaire, qu'on juge d'une cause par ses effets, alors même qu'on ne voit pas la cause. Si un oiseau, fort dans l'air, est atteint d'un plomb mortel, on juge qu'un habile tireur l'a frappé, quoiqu'on ne voit pas le tireur. Il n'est donc pas toujours nécessaire d'avoir vu une chose pour savoir qu'elle existe. En tout, c'est en observant les effets qu'on arrive à la connaissance des causes. Point 3. Un autre principe tout aussi élémentaire et passé à l'état d'axiome à force de vérité, c'est que tout effet intelligent doit avoir une cause intelligente. Si on demandait quel est le constructeur de tel ingénieux mécanisme, que penserait-on de celui qui répondrait qu'il s'est fait tout seul? Lorsqu'on voit un chef-d'œuvre de l'art ou de l'industrie, on dit que ce doit être le produit d'un homme de génie, parce qu'une haute intelligence a dû précéder à sa conception. On juge néanmoins qu'un homme a dû le faire, parce qu'on sait que la chose n'est pas au-dessus de la capacité humaine. Mais il ne viendra à personne la pensée de dire qu'elle est sortie du cerveau d'un idiot ou d'un ignorant, et encore moins quel est le travail d'un animal ou le produit du hasard. Point 4. Partout, on reconnaît la présence de l'homme à ses ouvrages. L'existence des hommes antédiluviens ne se prouverait pas seulement par des fossiles humains, mais aussi, et avec autant de certitude, par la présence dans les terrains de cette époque d'objets travaillés par les hommes. Un fragment de vase, une pierre taillée, une arme, une brique suffiront pour attester leur présence. À la grossièreté ou à la perfection du travail, on reconnaîtra le degré d'intelligence et d'avancement de ceux qui l'ont accompli. Si donc, vous trouvant dans un pays habité exclusivement par des sauvages, vous découvriez une statue digne de Phidias, vous n'hésiteriez pas à dire que des sauvages, étant incapables de l'avoir faite, elle doit être l'œuvre d'une intelligence supérieure à celle des sauvages. Point 5. Eh bien, en jetant les yeux autour de soi, sur les œuvres de la nature, en observant la prévoyance, la sagesse, l'harmonie qui préside à toutes, on reconnaît qu'il n'en est aucune qui ne dépasse la plus haute portée de l'intelligence humaine. Dès lors que l'homme ne peut les produire, c'est qu'elles sont le produit d'une intelligence supérieure à l'humanité, à moins de dire qu'il y a des effets sans cause. Point 6. À cela, quelques-uns opposent le raisonnement suivant. Les œuvres dites de la nature sont le produit de forces matérielles qui agissent mécaniquement, par suite des lois d'attraction et de répulsion. Les molécules des corps inertes s'agrègent et se désagrègent sous l'empire de ces lois. Les plantes naissent, poussent, croissent et se multiplient toujours de la même manière, chacune dans son espèce en vertu de ces mêmes lois. Chaque sujet est semblable à celui d'où il est sorti. La croissance, la floraison, la fructification, la coloration sont subordonnées à des causes matérielles telles que la chaleur, l'électricité, la lumière, l'humidité, etc. Il en est de même des animaux. Les astres se forment par l'attraction moléculaire et se meuvent perpétuellement dans leurs orbites par l'effet de la gravitation. Cette régularité mécanique dans l'emploi des forces naturelles n'accuse point une intelligence libre. L'homme remue son bras quand il veut et comme il veut, mais celui qui le remuerait dans le même sens depuis sa naissance jusqu'à sa mort serait un automate. Or, les forces organiques de la nature sont purement automatiques. Tout cela est vrai, mais ces forces sont des effets qui doivent avoir une cause, et nul ne prétend qu'elles constituent la divinité. Elles sont matérielles et mécaniques. Elles ne sont point intelligentes par elles-mêmes, cela est encore vrai. Mais elles sont mises en œuvre, distribuées, appropriées pour les besoins de chaque chose par une intelligence qui n'est point celle des hommes. L'utile appropriation de ces forces est un effet intelligent qui dénote une cause intelligente. Une pendule se meut avec une régularité automatique, et c'est cette régularité qui en fait le mérite. La force qui la fait agir est toute matérielle et nullement intelligente. Mais que serait cette pendule si une intelligence n'avait combiné, calculé l'emploi de cette force pour la faire marcher avec précision ? De ce que l'intelligence n'est pas dans le mécanisme de la pendule et de ce qu'on ne la voit pas, serait-il rationnel de conclure qu'elle n'existe pas? On la juge à ses effets. L'existence de l'horloge atteste l'existence de l'horloger. L'ingéniosité du mécanisme atteste l'intelligence et le savoir de l'horloger. Quand une pendule vous donne à point nommé le renseignement dont vous avez besoin, est-il jamais venu à la pensée de quelqu'un de dire « Voilà une pendule bien intelligente ?» Ainsi en est-il du mécanisme de l'univers. Dieu ne se montre pas, mais il s'affirme par ses œuvres. Point 7. L'existence de Dieu est donc un fait acquis, non seulement par la révélation, mais par l'évidence matérielle des faits. Les peuples sauvages n'ont pas eu de révélation, et cependant ils croient instinctivement à l'existence d'une puissance surhumaine. Ils voient des choses qui sont au-dessus du pouvoir humain et ils en concluent qu'elles proviennent d'un être supérieur à l'humanité. Ne sont-ils pas plus logiques que ceux qui prétendent qu'elles se sont faites toutes seules? Point 8 de la nature divine. Il n'est pas donné à l'homme de sonder la nature intime de Dieu. Pour comprendre Dieu, il nous manque encore le sens qui ne s'acquiert que par la complète épuration de l'esprit. Mais si l'homme ne peut pénétrer son essence, son existence étant donnée comme prémisse, il peut, par le raisonnement, arriver à la connaissance de ses attributs nécessaires. Car, en voyant ce qu'il ne peut point ne pas être sans cesser d'être Dieu, il en conclut ce qu'il doit être. Sans la connaissance des attributs de Dieu, il serait impossible de comprendre l'œuvre de la création. C'est le point de départ de toutes les croyances religieuses. Et c'est faute de s'y être reportés, comme aux phares qui pouvaient les diriger, que la plupart des religions ont erré dans leurs dogmes. Celles qui n'ont pas attribué à Dieu la toute-puissance ont imaginé plusieurs dieux. Celles qui ne lui ont pas attribué la souveraine bonté en ont fait un dieu jaloux, colère, partial et vindicatif. Point 9. Dieu est la suprême et souveraine intelligence. L'intelligence de l'homme est bornée, puisqu'il ne peut ni faire ni comprendre tout ce qui existe. Celle de Dieu, embrassant l'infini, doit être infinie. Si on la supposait bornée sur un point quelconque, on pourrait concevoir un être encore plus intelligent, capable de comprendre et de faire ce que l'autre ne ferait pas, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Point 10. Dieu est éternel. C'est-à-dire qu'il n'a point eu de commencement et n'aura point de fait. S'il avait eu un commencement, c'est qu'il serait sorti du néant. Or, le néant n'étant rien, ne peut rien produire. Ou bien il aurait été créé par un autre être antérieur, et alors c'est cet être qui serait Dieu. Si on lui supposait un commencement ou une fin, On pourrait donc concevoir un être ayant existé avant lui, ou pouvant exister après lui, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Point 11. Dieu est immuable. S'il était sujet à des changements, les lois qui régissent l'univers n'auraient aucune stabilité. Point 12. Dieu est immatériel, c'est-à-dire que sa nature diffère de tout ce que nous appelons matière. Autrement, il ne serait pas immuable, car il serait sujet aux transformations de la matière. Dieu n'a pas de forme appréciable à nos sens. Sans cela, il serait matière. Nous disons la main de Dieu, l'œil de Dieu, la bouche de Dieu, parce que l'homme, ne connaissant que lui, se prend pour terme de comparaison de tout ce qu'il ne comprend pas. Ces images, où l'on représente Dieu sous la figure d'un vieillard à longue barbe, couvert de manteau, sont ridicules. Elles ont l'inconvénient de rabaisser l'être suprême aux mesquines proportions de l'humanité. De là à lui prêter les passions de l'humanité, à en faire un Dieu colère et jaloux, il n'y a que pas. Point 13. Dieu est tout-puissant. S'il n'avait pas la suprême puissance, on pourrait concevoir un être plus puissant, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on trouvât l'être qu'aucun autre ne pourrait surpasser en puissance. Et c'est celui-là qui serait Dieu. Point 14. Dieu est souverainement juste et bon. La sagesse providentielle des lois divines se révèle dans les plus petites choses comme dans les plus grandes. Et cette sagesse ne permet de douter ni de sa justice, ni de sa bonté. L'infini d'une qualité exclut la possibilité de l'existence d'une qualité contraire qui l'amoindrirait ou l'annulerait. Un être infiniment bon ne saurait avoir la plus petite parcelle de méchanceté, ni l'être infiniment mauvais avoir la plus petite parcelle de bonté. De même qu'un objet ne saurait être d'un noir absolu avec la plus légère nuance de blanc, ni d'un blanc absolu avec la plus petite tache de noir. Dieu ne saurait donc être à la fois bon et mauvais, car alors, ne possédant ni l'une ni l'autre de ses qualités au suprême degré, il ne serait pas Dieu. Toute chose serait soumise au caprice, et il n'y aurait de stabilité pour rien. Il ne pourrait donc être qu'infiniment bon ou infiniment mauvais. Or, comme ses œuvres témoignent de sa sagesse, de sa bonté et de sa sollicitude, il en faut conclure que, ne pouvant être à la fois bon et mauvais sans cesser d'être Dieu, il doit être infiniment bon. La souveraine bonté implique la souveraine justice, car il s'agissait injustement ou avec partialité dans une seule circonstance où, à l'égard d'une seule de ses créatures, il ne serait pas souverainement juste, et par conséquent ne serait pas souverainement bon.
Nous poursuivons notre lecture du jour par le second chapitre de la Genèse, traitant de la Providence, des points 15 à 27.
La Genèse selon le spiritisme, chapitre 2, point 15 de la nature divine. Dieu est infiniment parfait. Il est impossible de concevoir Dieu sans l'infini des perfections, sans quoi il ne serait pas Dieu, car on pourrait toujours concevoir un être possédant ce qui lui manquerait. Pour qu'aucun être ne puisse le surpasser, il faut qu'il soit infini en tout. Les attributs de Dieu, étant infinis, ne sont susceptibles ni d'augmentation ni de diminution. Sans cela, il ne serait pas infini, et Dieu ne serait pas parfait. Si l'on ôtait la plus petite parcelle d'un seul de ses attributs, on n'aurait plus Dieu, puisqu'il pourrait exister un être plus parfait. Point 16. Dieu est unique. L'unité de Dieu est la conséquence de l'infini absolu des perfections. Un autre Dieu ne pourrait exister qu'à la condition d'être également infini en toutes choses. Car s'il y avait entre eux la plus légère différence, l'un serait inférieur à l'autre, subordonné à sa puissance et ne serait pas Dieu. S'il y avait entre eux égalité absolue, ce serait de toute éternité une même pensée, une même volonté, une même puissance. Ainsi confondus dans leur identité, ce ne serait en réalité qu'un seul Dieu. S'ils avaient chacun des attributions spéciales, l'un ferait ce que l'autre ne ferait pas, Et alors, il n'y aurait pas entre égalité parfaite, puisque ni l'un ni l'autre n'aurait la souveraine autorité. Point 17. C'est l'ignorance du principe de l'infinie des perfections de Dieu qui a engendré le polythéisme, culte de tous les peuples primitifs. Ils ont attribué la divinité à toute puissance qui le rassemblait au-dessus de l'humanité. Plus tard, la raison les a conduits à confondre ces diverses puissances en une seule. Puis, à mesure que les hommes ont compris l'essence des attributs divins, ils ont retranché de leurs symboles les croyances qui en étaient la négation. Point 18. En résumé, Dieu ne peut être Dieu qu'à la condition de n'être surpassé en rien par un autre être. Car alors, l'être qui le surpasserait en quoi que ce soit, ne fût-ce que de l'épaisseur d'un cheveu, serait le véritable Dieu. Pour cela, il faut qu'il soit infini en toutes choses. C'est ainsi que l'existence de Dieu étant constatée par le fait de ses œuvres, on arrive, par la simple déduction logique, à déterminer les attributs qui le caractérisent. Point 19. Dieu est donc la suprême et souveraine intelligence. Il est unique, éternel, immuable, immatériel, tout-puissant, souverainement juste et bon, infini dans toutes ses perfections et ne peut être autre chose. Tel est le pivot sur lequel repose l'édifice universel. C'est le phare dont les rayons s'étendent sur l'univers entier et qui seul peut guider l'homme dans la recherche de la vérité. En le suivant, il ne s'égarera jamais. Et s'il s'est souvent fourvoyé, c'est faute d'avoir suivi la route qui lui était indiquée. Tel est aussi le critérium infaillible de toutes les doctrines philosophiques et religieuses. L'homme a pour les juger une mesure rigoureusement exacte dans les attributs de Dieu. Et il peut se dire avec certitude que toute théorie, tout principe, tout dogme, toute croyance, toute pratique qui serait en contradiction avec un seul de ses attributs, qui tendrait non seulement à l'annuler, mais simplement à l'affaiblir, ne peut être dans la vérité. En philosophie, en psychologie, en morale, en religion, il n'y a de vrai que ce qui ne s'écarte pas d'un iota des qualités essentielles de la divinité. La religion parfaite serait celle dont aucun article de foi ne serait en opposition avec ses qualités, dont tous les dogmes pourraient subir l'épreuve de ce contrôle, sans en recevoir aucune atteinte. Chapitre 2. La Providence. Point 20. La Providence est la sollicitude de Dieu pour ses créatures. Dieu est partout, il voit tout, il préside à tout, même aux plus petites choses. C'est en cela que consiste l'action providentielle. Comment Dieu si grand, si puissant, si supérieur à tout, peut-il s'immiscer dans des détails infimes, se préoccuper des moindres actes et des moindres pensées de chaque individu? Telle est la question que se pose l'incrédule, d'où il conclut qu'en admettant l'existence de Dieu, son action ne doit s'étendre que sur les lois générales de l'univers, que l'univers fonctionne de toute éternité en vertu de ces lois auxquelles chaque créature est soumise dans sa sphère d'activité sans qu'il soit besoin du concours incessant de la Providence. Point 21. Dans leur état actuel d'infériorité, les hommes ne peuvent que difficilement comprendre Dieu infini, parce qu'ils sont eux-mêmes bornés et limités. C'est pourquoi ils se le figurent borné et limité comme eux. Ils se le représentent comme un être circonscrit et en font une image à leur image. Nos tableaux, qui le peignent sous des traits humains, ne contribuent pas peu à entretenir cette erreur dans l'esprit des masses, qui adore en lui la forme plus que la pensée. C'est pour le plus grand nombre un souverain puissant, sur un trône inaccessible, perdu dans l'immensité des cieux, et parce que leurs facultés et leurs perceptions sont bornées, ils ne comprennent pas que Dieu puisse et daigne intervenir directement dans les petites choses. Point 22. Dans l'impuissance où est l'homme de comprendre l'essence même de la divinité, il ne peut s'en faire qu'une idée approximative à l'aide de comparaisons nécessairement très imparfaites, mais qui peuvent du moins lui montrer la possibilité de ce qui, au premier abord, lui semble impossible. Supposons un fluide assez subtil pour pénétrer tous les corps, ce fluide étant intelligent, agit mécaniquement par les seules forces matérielles. Mais si nous supposons ce fluide doué d'intelligence, de facultés perceptives et sensitives, il agira, non plus aveuglément, mais avec discernement, avec volonté et liberté. Il verra, il entendra et sentira. Point 23. Les propriétés du fluide périsprital peuvent nous en donner une idée. Il n'est point intelligent par lui-même, puisqu'il est matière, mais il est le véhicule de la pensée, des sensations et des perceptions de l'esprit. Le fluide périsprital n'est pas la pensée de l'esprit, mais l'agent est l'intermédiaire de cette pensée. Comme c'est lui qui la transmet, il en est en quelque sorte imprégné, et, dans l'impossibilité où nous sommes de l'isoler, elle semble ne faire qu'un avec le fluide, comme le son semble ne faire qu'un avec l'air, de sorte que nous pouvons, pour ainsi dire, la matérialiser. De même que nous disons que l'air devient sonore, nous pourrions, en prenant l'effet pour la cause, dire que le fluide devient intelligent. Point 24. Qu'il en soit ou non ainsi de la pensée de Dieu, c'est-à-dire qu'elle agisse directement ou par l'intermédiaire d'un fluide, pour la facilité de notre intelligence, représentons-la nous sous la forme concrète d'un fluide intelligent remplissant l'univers infini, pénétrant toutes les parties de la création. La nature entière est plongée dans le fluide divin. Or, en vertu du principe que les parties d'un tout sont de même nature et ont les mêmes propriétés que le tout, chaque atome de ce fluide, si l'on peut s'exprimer ainsi, possédant la pensée, c'est-à-dire les attributs essentiels de la divinité, et ce fluide étant partout, tout est soumis à son action intelligente, à sa prévoyance, à sa sollicitude. Pas un être, quelque infime qu'on le suppose, qui n'en soit en quelque sorte saturé. Nous sommes ainsi constamment en présence de la divinité. Il n'est pas une seule de nos actions que nous puissions soustraire à son regard. Notre pensée est en contact incessant avec sa pensée, et c'est avec raison qu'on dit que Dieu lit dans les plus profonds replis de notre cœur. Nous sommes en lui comme il est en nous, selon la parole du Christ. Pour étendre sa sollicitude sur toutes ses créatures, Dieu n'a donc pas besoin de plonger son regard du haut de l'immensité. Nos prières, pour être entendues de lui, n'ont pas besoin de franchir l'espace ni d'être dites d'une voix retentissante, car, sans cesse à nos côtés, nos pensées se répercutent en lui. Nos pensées sont comme les sons d'une cloche qui font vibrer toutes les molécules de l'air ambiant. Point 25. Loin de nous la pensée de matérialiser la divinité. L'image d'un fluide intelligent universel n'est évidemment qu'une comparaison, mais propre à donner une idée plus juste de Dieu que les tableaux qui le représentent sous une figure humaine. Elle a pour objet de faire comprendre la possibilité pour Dieu d'être partout et de s'occuper de tout. Point 26. Nous avons incessamment sous les yeux un exemple qui peut nous donner une idée de la manière dont l'action de Dieu peut s'exercer sur les parties les plus intimes de tous les êtres, et par conséquent, comment les impressions les plus subtiles de notre âme arrivent à lui. Il est tiré d'une instruction donnée par un esprit à ce sujet. Point 27. L'homme est un petit monde dont le directeur est l'esprit et dont le principe dirigé est le corps. Dans cet univers, le corps représentera une création dont l'esprit serait Dieu. Vous comprenez qu'il ne peut y avoir ici qu'une question d'analogie et non d'identité. Les membres de ce corps, les différents organes qui le composent, ses muscles, ses nerfs, ses articulations, sont autant d'individualités matérielles, si l'on peut dire ainsi, localisées dans un endroit spécial du corps. Bien que le nombre de ces parties constitutives si variées et si différentes de nature soit considérable, il n'est cependant douteux pour personne qu'il ne peut se produire de mouvement, qu'une impression quelconque ne peut avoir lieu dans un endroit particulier sans que l'esprit en ait conscience. Y a-t-il des sensations diverses en plusieurs endroits simultanés? L'esprit les ressent toutes, les discerne, les analyse, assigne à chacune sa cause et son lieu d'action, par l'intermédiaire du fluide périsprital. Un phénomène analogue a lieu entre la création et Dieu. Dieu est partout dans la nature, comme l'esprit est partout dans le corps. tous les éléments de la création sont en rapport constant avec lui, comme toutes les cellules du corps humain sont en contact immédiat avec l'être spirituel. Il n'y a donc point de raison pour que des phénomènes de même ordre ne se produisent pas de la même manière dans l'un et l'autre cas. Un membre s'agite, l'esprit le sent. Une créature pense, Dieu le sait. Tous les membres sont en mouvement, les différents organes sont mis en vibration. L'esprit ressent chaque manifestation, les distingue et les localise. Les différentes créatures s'agitent, pensent, agissent diversément, et Dieu sait tout ce qui se passe, assigne à chacun ce qui lui est particulier. On peut en déduire également la solidarité de la matière et de l'intelligence, la solidarité de tous les êtres d'un monde entre eux, celle de tous les mondes et celle enfin des créations et du Créateur. Quinemont, Société de Paris, 1867.
Nous poursuivons ensemble la lecture de la Genèse, second chapitre, traitant de la vue de Dieu, des points 28 à 27.
La Genèse selon le spiritisme, chapitre 2, la Providence, point 28. Nous comprenons les faits, c'est déjà beaucoup. De l'effet, nous remontons à la cause, et nous jugeons de sa grandeur par la grandeur de l'effet. Mais son essence intime nous échappe, comme celle de la cause d'une foule de phénomènes. Nous connaissons les effets de l'électricité, de la chaleur, de la lumière, de la gravitation. Nous les calculons, et cependant nous ignorons la nature intime du principe qui les produit. Est-il donc plus rationnel de nier le principe divin, parce que nous ne le comprenons pas? Point 29. Rien n'empêche d'admettre, pour le principe de souveraine intelligence, un centre d'action, un foyer principal rayonnant sans cesse, inondant l'univers de ses effluves comme le soleil de sa lumière. Mais où est ce foyer? C'est ce que nul ne peut dire. Il est probable qu'il n'est pas plus fixé sur un point déterminé que ne l'est son action, et qu'il parcourt incessamment les régions de l'espace sans bornes. Si de simples esprits ont le don d'ubiquité, cette faculté, en Dieu, doit être sans limite. Dieu, remplissant l'univers, on pourrait encore admettre, à titre d'hypothèse, que ce foyer n'a pas besoin de se transporter, et qu'il se forme sur tous les points où la souveraine volonté juge à propos de se produire, d'où l'on pourrait dire qu'il est partout et nulle part. Point 30. Devant ces problèmes insondables, notre raison doit s'humilier. Dieu existe, nous n'en saurions douter. Il est infiniment juste et bon, c'est son essence. Sa sollicitude s'étend à tout, nous le comprenons. Il ne peut donc vouloir que notre bien. C'est pourquoi nous devons avoir confiance en lui. Voilà l'essentiel. Pour le surplus, attendons que nous soyons dignes de le comprendre. La vue de Dieu. Point 31. Puisque Dieu est partout, pourquoi ne le voyons-nous pas? Le verrons-nous en quittant la terre? Telles sont les questions qu'on se pose journellement. La première est facile à résoudre. Nos organes matériels ont des perceptions bornées qui les rendent impropres à la vue de certaines choses, même matérielles. C'est ainsi que certains fluides échappent totalement à notre vue et à nos instruments d'analyse, et pourtant, nous ne doutons pas de leur existence. Nous voyons les effets de la peste et nous ne voyons pas le fluide qui la transporte. Nous voyons les corps se mouvoir sous l'influence de la force de gravitation, et nous ne voyons pas cette force. Point 32. Les choses d'essence spirituelle ne peuvent être perçues par des organes matériels. Ce n'est que par la vue spirituelle que nous pouvons voir les esprits et les choses du monde immatériel. Notre âme seule peut donc avoir la perception de Dieu. Le voit-elle immédiatement après la mort? C'est ce que les communications d'outre-tombe peuvent seules nous apprendre. Par elle, nous savons que la vue de Dieu n'est le privilège que des âmes les plus épurées, et qu'ainsi, bien peu possèdent, en quittant leur enveloppe terrestre, le degré de dématérialisation nécessaire. Une comparaison vulgaire le fera aisément comprendre. Point 33. Celui qui est au fond d'une vallée, plongé dans une brume épaisse, ne voit pas le soleil. Cependant, à la lumière diffuse, il juge de la présence du soleil. S'il gravit la montagne, à mesure qu'il s'élève, le brouillard s'éclaircit. La lumière devient de plus en plus vive, mais il ne voit pas encore le soleil. Ce n'est qu'après s'être complètement élevé au-dessus de la couche brumeuse que, se trouvant dans un air parfaitement pur, il le voit dans toute sa splendeur. Ainsi en est-il de l'âme. L'enveloppe périsprétale, bien qu'invisible et impalpable pour nous, est pour elle une véritable matière, trop grossière encore pour certaines perceptions. Cette enveloppe se spiritualise à mesure que l'âme s'élève en moralité. Les imperfections de l'âme sont comme des couches brumeuses qui obscurcissent sa vue. Chaque imperfection dont elle se défait est une tâche de moins. Mais ce n'est qu'après s'être complètement épurée qu'elle jouit de la plénitude de ses facultés. Point 34. Dieu, étant l'essence divine par excellence, ne peut être perçu dans tout son éclat que par les esprits arrivés au plus haut degré de dématérialisation. Si les esprits imparfaits ne le voient pas, ce n'est pas qu'ils en soient plus éloignés que les autres. Comme eux, comme tous les êtres de la nature, ils sont plongés dans le fluide divin, comme nous le sommes dans la lumière. Seulement, leurs imperfections sont des vapeurs qui le dérobent à leur vue. Quand le brouillard sera dissipé, ils le verront resplendir. Pour cela, ils n'auront besoin ni de monter ni d'aller le chercher dans les profondeurs de l'infini. La vue spirituelle étant débarrassée des tailles morales qui l'obscurcissaient, ils le verront en quelque lieu qu'il se trouve, fût-ce même sur la terre, car il est partout. Point 35. L'esprit ne s'épure qu'à la longue, et les différentes incarnations sont les alambics au fond desquels il laisse à chaque fois quelques impuretés. En quittant son enveloppe corporelle, il ne se débrouille pas instantanément de ses imperfections. C'est pourquoi il en est qui, après la mort, ne voient pas plus Dieu que de leur vivant. Mais à mesure qu'ils s'épurent, ils en ont une intuition plus distincte. S'ils ne le voient pas, ils le comprennent mieux. La lumière est moins diffuse. Lorsque que des esprits disent que Dieu leur défend de répondre à telle question, ce n'est pas que Dieu leur apparaisse ou leur adresse la parole pour leur prescrire ou leur interdire telle ou telle chose, non. Mais ils le sentent, ils reçoivent les effluves de sa pensée, comme cela nous arrive à l'égard des esprits qui nous enveloppent de leur fluide, quoique nous ne les voyons pas. Point 36. Aucun homme ne peut donc voir Dieu avec les yeux de la chair. Si cette faveur était accordée à quelques-uns, ce ne serait qu'à l'état d'extase, alors que l'âme est autant dégagée des liens de la matière que cela est possible pendant l'incarnation. Un tel privilège ne serait d'ailleurs celui que des âmes d'élite, incarnées en mission et non en expiation. Mais comme les esprits de l'ordre le plus élevé resplendissent d'un éclat éblouissant, il se peut que les esprits moins élevés, incarnés ou désincarnés, frappés de la splendeur qui les entoure, aient cru voir Dieu lui-même. Tel on voit parfois un ministre pris pour son souverain. Point 37. Sous quelle apparence Dieu se présente-t-il à ceux qui se sont rendus dignes de cette faveur? Est-ce sous une forme quelconque, sous une figure humaine ou comme un foyer resplendissant de lumière? C'est ce que le langage humain est impuissant à décrire, parce qu'il n'existe pour nous aucun point de comparaison qui puisse en donner une idée. Nous sommes comme des aveugles à qui l'on chercherait en vain à faire comprendre l'éclat du soleil. Notre vocabulaire est borné à nos besoins et au cercle de nos idées. Celui des sauvages ne saurait dépeindre les merveilles de la civilisation. Celui des peuples les plus civilisés est trop pauvre pour décrire les splendeurs des cieux. Notre intelligence trop bornée pour les comprendre et notre vue trop faible en serait éblouie. Chapitre 3. Le bien et le mal. source du bien et du mal. Point 1. Dieu étant le principe de toutes choses, et ce principe étant toute sagesse, toute bonté, toute justice, tout ce qui en procède doit participer de ses attributs, car ce qui est infiniment sage, juste et bon ne peut rien produire de déraisonnable, de mauvais et d'injuste. Le mal que nous observons ne doit donc pas avoir sa source en lui. Point 2. Si le mal était dans les attributions d'un être spécial, qu'on l'appelle Ahriman ou Satan, de deux choses l'une, ou cet être serait égal à Dieu et par conséquent aussi puissant que lui, et de toute éternité comme lui, ou il lui serait inférieur. Dans le premier cas, il y aurait deux puissances rivales, luttant sans cesse, chacune cherchant à défaire ce que fait l'autre, et se contrecarrant mutuellement. Cette hypothèse est inconciliable avec l'unité de vue qui se révèle dans l'ordonnance de l'univers. Dans le second cas, cet être étant inférieur à Dieu, lui serait subordonné, ne pouvant avoir été comme lui de toute éternité sans être son égal, il aurait eu un commencement. S'il a été créé, il ne peut l'avoir été que par Dieu. Dieu aurait ainsi créé l'esprit du mal, ce qui serait la négation de l'infinie bonté. Voir ciel et enfer selon le spiritisme, chapitre 10, les démons. Point 3. Cependant, le mal existe et il a une cause. Les maux de toutes sortes, physiques ou moraux, qui affligent l'humanité, présentent deux catégories qu'il importe de distinguer. Ce sont les maux que l'homme peut éviter et ceux qui sont indépendants de sa volonté. Parmi ces derniers, il faut placer les fléaux naturels. L'homme, dont les facultés sont limitées, ne peut pénétrer ni embrasser l'ensemble des vues du Créateur. Il juge les choses au point de vue de sa personnalité, des intérêts factices et de conventions qu'il sait créer, et qui ne sont point dans l'ordre de la nature. C'est pourquoi il trouve souvent mauvais et injuste ce qu'il trouverait juste et admirable s'il en voyait la cause, le but et le résultat définitif. En cherchant la raison d'être et l'utilité de chaque chose, il reconnaîtra que tout porte l'empreinte de la sagesse infinie et il s'inclinera devant cette sagesse, même pour les choses qu'il ne comprendrait pas.
Nous voici arrivés à la seconde partie de cette émission, celle où nous répondons avec grand plaisir aux questions que vous avez bien voulu nous poser par courriel ou notre répondeur téléphonique. Nous voici arrivés à la partie qui vous est particulièrement réservée, celle où nous répondons avec grand plaisir aux questions que vous avez bien voulu nous poser via courriel ou notre répondeur téléphonique. Première question. Lors des communications, nous avons parfois quelqu'un d'autre qui vient à la place de celui que nous avons demandé. Pourquoi ? Dans le livre des médiums, seconde partie, chapitre 25, à la question de savoir quelles sont les causes qui peuvent empêcher un esprit de venir à notre appel, les esprits répondent. Sa volonté, d'abord, puis son état corporel, s'il est réincarné ou non, les missions dont il peut être chargé, ou bien encore la permission qui peut lui être refusée. Il y a des esprits qui ne peuvent jamais se communiquer. Ce sont ceux qui, par leur nature, appartiennent encore au monde inférieur, à la terre, ceux qui sont dans les sphères de punition et ne le peuvent pas non plus, à moins d'une permission supérieure qui n'est accordée que dans un but d'utilité générale. Il arrive que quand l'esprit évoqué ne peut se communiquer et que la communication ne peut attendre, il soit envoyé un autre esprit comme messager. Il est à noter également que le médium, afin d'exercer son jugement et son discernement, peut également être mis à l'épreuve. C'est ainsi que le contrôle et l'analyse des communications est une chose absolument nécessaire, afin d'essayer d'éviter toute mystification. Il faut savoir aussi que les esprits, tout comme nous, ont leur libre arbitre. Appeler un esprit ne l'oblige pas à nous répondre. Et comme nous attirons par la loi d'affinité ceux qui nous ressemblent, nous pouvons en déduire que des esprits élevés ont autre chose à faire que de répondre à des divertissements. Il faut démontrer une profonde volonté d'amélioration pour qu'ils nous encouragent de leurs bons conseils. Mais bien souvent, des médiums disent « les esprits nous répètent toujours la même chose ». Eh bien, mes amis, soyez sûrs que ceux-là ne tiennent pas compte de ce qui leur a déjà été dit et qu'ils ne font aucun effort pour s'élever jusqu'à ces esprits aux bons conseils. La curiosité ou l'amusement seront toujours accompagnés d'esprits ignorants ou farceurs. C'est pour cela que tout ce qui vient du monde spirituel doit être passé au crible de la raison. Seconde question. Souvent, je me pose la question de savoir pourquoi je suis moi. Tout d'abord, nous présumons que le moi au sujet duquel vous vous posez cette question est le vrai moi, qui n'est autre que votre âme ou votre esprit immortel, et non le faux moi, plus communément appelé ego. Dieu crée tous les esprits simples et ignorants, et il les dispose tous du libre arbitre. L'esprit, au fil de ses diverses incarnations, mène diverses expériences. À l'occasion de ces dernières et par l'exercice de son libre arbitre dans les choix qu'il pose, il crée son identité personnelle et individuelle tout au long de son parcours évolutif. En fait, nous sommes ce que nous faisons de nous-mêmes. Au départ, le principe intelligent est associé à la matière. Cette matière sera pour l'esprit, qui est ce principe intelligent, le moyen de progresser et d'évoluer. Cet esprit va développer les attributs qui lui sont propres, comme l'intelligence, la connaissance, la fraternité, la charité, la volonté, etc. Chacun se construit par ses expériences, ses souffrances, tout ce qui fait son individualité. Nous sommes tous différents dans notre parcours, mais nous allons tous dans le même sens, plus ou moins rapidement, en croisant en permanence ceux qui ont un peu d'avance ou un peu de retard, mais tous dans des sillons parallèles. Troisième question. Les esprits que nous trouvons dans le monde spirituel vivent depuis combien de temps? Eh bien là, il est difficile de pouvoir donner une réponse chiffrée à cette question. Dieu ayant créé de tout temps des esprits, de plus, il continue de créer sans cesse. Dieu est éternel. Les esprits peuvent donc être plus ou moins âgés ou jeunes. Comme nous l'avons déjà dit, à la création, l'esprit est associé à la matière. Il n'y a donc pas de matière sans esprit associé. La Terre aurait 4,5 milliards d'années. Et si la matière est attachée à l'espace et au temps, le monde spirituel, lui, n'y est pas soumis. La vieillesse n'y a pas prise. C'est pour cela que le livre des esprits nous précise que le monde spirituel est préexistant et survivant au monde matériel. Dieu renouvelle les mondes, mais l'esprit évolue sans vieillir. Autre précision, la vie appartient au monde matériel grâce au fluide vital puisé dans le fluide universel. L'esprit, lui, il est. Quatrième et dernière question. Le ressenti, qu'est-ce que c'est? Les médiums sont les personnes aptes à ressentir l'influence des esprits et à transmettre leurs pensées. Toute personne qui ressent à un degré quelconque l'influence des esprits est par cela même médium. Cette faculté, je dis bien faculté, est inhérente à l'homme et par conséquent n'est point un privilège exclusif. Aussi en est-il peu chez lesquels on en trouve quelques rudiments. On peut donc dire que tout le monde, à peu de choses près, est médium. Toutefois, dans l'usage, cette qualification ne s'applique qu'à ceux chez lesquels la faculté médiumnique se manifeste par des effets ostensibles d'une certaine intensité. Le fluide périsprital est l'agent de tous les phénomènes spirites. Ces phénomènes ne peuvent s'opérer que par l'action réciproque des fluides émis par le médium et par l'esprit. Le développement de la faculté médiumnique tient à la nature plus ou moins expansible du périsprit du médium et à son assimilation plus ou moins facile avec celui des esprits. Elle tient par conséquent à l'organisation et peut être développée quand le principe existe, mais elle ne peut être acquise quand ce principe n'existe pas. La prédisposition médiumnique est indépendante du sexe, de l'âge et du tempérament. Ainsi, on trouve des médiums dans toutes les catégories d'individus, depuis l'âge le plus tendre jusqu'au plus avancé. Les rapports entre les esprits et les médiums s'établissent au moyen de leur périsprit. La facilité de ces rapports dépend du degré d'affinité qui existe entre les deux fluides. Il en est qui s'assimilent facilement et d'autres qui se repoussent, d'où il suit qu'il ne suffit pas d'être médium pour communiquer indistinctement avec tous les esprits. Il y a des médiums qui ne peuvent communiquer qu'avec certains esprits ou avec certaines catégories d'esprits, et d'autres qui ne le peuvent que par une transmission de pensées sans aucune manifestation extérieure. Par l'assimilation des fluides périspritaux, l'esprit s'identifie, pour ainsi dire, avec la personne qu'il veut influencer. Non seulement il lui transmet sa pensée, mais il peut également exercer sur elle une action physique, la faire agir ou parler à son gré, lui faire dire ce qu'il veut, en un mot, se servir de ses organes comme s'il était les siens. Il peut enfin neutraliser l'action de son propre esprit et paralyser son libre arbitre. Les bons esprits se servent de cette influence pour le bien et les mauvais esprits pour le mal. Les esprits peuvent se manifester d'une infinité de manières différentes et ils ne le peuvent qu'à la condition de trouver une personne apte à recevoir et à transmettre tel ou tel genre d'impression selon son aptitude. Or, comme il n'en est aucune possédant toutes les aptitudes au même degré, il en résulte que les unes obtiennent des effets impossibles pour d'autres. Cette diversité dans les aptitudes produit différentes variétés de médiums. Le ressenti est donc une qualité du père-esprit. Le fait, par exemple, que l'on retrouve la sensation à la place d'un membre amputé alors que le membre coupé, lui, ne ressent plus rien, le prouve. Les vibrations entre père-esprit, dont c'est le moyen de communication, peuvent se traduire en sensations bonnes ou déplaisantes. Il en est ainsi de la transmission de pensées ou et même d'une action sur le corps. Cela est possible entre esprits désincarnés et incarnés, tout comme entre deux esprits incarnés. Quant à deux esprits désincarnés, c'est là leur moyen de communication.
Nous voici arrivés à la séquence réservée aux communiqués de nos divers partenaires. Cette année, la Société d'études psychiques de Nancy organise une journée spéciale autour du thème de l'après-mort. Elle aura lieu le dimanche 27 septembre 2009 à la salle Rograff, 13 rue des Ponts à Nancy, de 9h à 18h. La participation aux frais sera de 15 €. Pour renseignements et réservations, merci de bien vouloir prendre contact par téléphone en formant depuis la France le 03 83 00 00 00 ou via le site www.sepnancy.org. Deuxième congrès francophone de médecine et spiritualité à Toulouse. La dernière décennie a été marquée par l'émergence de la spiritualité. L'intérêt du corps médical pour cette thématique amène aujourd'hui de nouvelles recherches dont les objectifs sont de déterminer la place de la spiritualité dans le traitement du patient et le résultat de son implication dans les soins. À la lumière de ces nouveaux développements, le mouvement Spirit francophone et l'Association internationale des médecins Spirit ont décidé d'organiser le deuxième congrès francophone de médecine et spiritualité les 24 et 25 octobre 2009 à l'Université Paul Sabatier à Toulouse, en France. Ils ont donc le plaisir de vous inviter à y assister. Ce congrès sera l'occasion d'établir un échange professionnel de savoirs et de compétences en explorant la possibilité de la présence de la dimension spirituelle dans le domaine des soins médicaux d'aujourd'hui et de demain. Le thème de ce congrès est inspiré de l'approche spirit de la médecine, largement pratiquée au Brésil aujourd'hui. Le spiritisme est basé sur une philosophie établie il y a 150 ans par Allan Kardec, philosophe français, qui a étudié les phénomènes spirituels et ses implications dans la vie des hommes. Au Brésil, il tient une place importante, puisqu'environ 20 millions de personnes connaissent cet enseignement. À l'heure actuelle, il y a 80 hôpitaux spirites répartis dans les plus grandes villes brésiliennes. La plupart d'entre eux sont d'ailleurs reconnus par le service brésilien des soins de santé. L'intégration du modèle spirit de traitement mené en collaboration avec la médecine conventionnelle inclut des traitements tels que les soins spirituels, l'homéopathie, l'ergothérapie, ainsi que des réunions régulières entre la famille, le patient et le médecin. Ce paradigme holistique de traitement basé sur une vue biologique, psychologique, sociale et spirituelle combinée au patient a obtenu des résultats sans précédent. Plus de 400 personnes sont attendues pour ce congrès. Les discussions tourneront autour de la pertinence de tenir compte ou non, dans les soins médicaux, de la réalité spirituelle qui fait de nous des êtres humains. La contribution d'orateurs de renommée internationale venant de différents pays enrichira le programme et fournira une diversité de perspectives sur cette question si importante. Pour tout renseignement et réservation, merci de bien vouloir consulter le site du congrès www.congrès.lmsf.org. Nous voici arrivés à la troisième et dernière partie de cette émission. Celle-ci est, comme vous le savez déjà, traditionnellement réservée à l'agenda des activités en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en France. Cette émission est une émission de transition, c'est-à-dire qu'elle tournera en boucle 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant toute la période estivale et ce jusqu'au 1er septembre, date de la reprise normale de nos activités. En attendant, nous vous souhaitons de très bonnes vacances et à bientôt. Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirit et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante, Union Spirit Belge 43 rue Maguin à 4000 Liège ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.